10 minutes chronique, une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. Un des plus grands auteurs de la littérature américaine de la deuxième moitié du XXe siècle est sans conteste Truman Capote, connu en France essentiellement pour son livre de sang-froid et sans doute universellement pour Petit déjeuner chez Tiffany. Truman Parsons naît à la Nouvelle-Orléans en 1924. Ses parents se séparent et sa mère, Lily May, l'abandonne alors qu'il a 5 ans. Ce sont des cousines déjà âgées qui vont l'élever à Monroeville, en Alabama. Après les terribles disputes de ses parents, qui parfois l'ont terrifié, son quotidien y est paisible. En 1932, Lily May vit alors à New York. Elle épouse Joe Capote. Un an plus tard, elle reprend l'enfant auprès d'elle. Son mari adopte le petit garçon, lequel s'appellera désormais Truman Capote. L'enfant, une fois de plus chamboulé d'un lieu à un autre, bousculé par de nouvelles habitudes, se réfugie dans l'imaginaire et bientôt dans l'écriture. « J'ai commencé à écrire, dira-t-il, sérieusement vers l'âge de 11 ans. Je dis sérieusement dans le sens où, comme d'autres enfants qui rentrent chez eux et pratiquent le violon ou le piano ou autre chose, je rentrais de l'école tous les jours et j'écrivais pendant environ 3 heures. J'étais obsédé par l'écriture. » Son premier livre est publié en 1948. « Les domaines hantés », qui aura un succès immédiat. Aujourd'hui, c'est son deuxième roman qui sera évoqué, comme un retour à l'enfance. Quand donc ai-je entendu parler pour la première fois de la harpe d'herbe ? Bien avant l'automne où nous allâmes habiter dans l'arbre. Quelque automne auparavant, dirons-nous. Et comme de juste, ce fut Dolly qui m'en parla. Il n'y avait qu'elle pour inventer un nom pareil, une harpe d'herbe. C'est ainsi que commence la harpe d'herbe, roman publié en 1951. Dans le courant des années 20, Colin Fenwick a 11 ans. Il vient de perdre ses parents. L'enfant vivra désormais chez ses deux cousines célibataires, Verena et Dolly, qui l'élèveront dans la grande maison d'une petite ville d'Alabama. Très vite, il découvre une existence confinée, qui pour lui devient un refuge. Il s'attache à l'une des sœurs, Dolly, femme douce, candide, timide et replié sur son propre monde. Le garçon la voit comme une sorte de fée. Elle était de ces gens qui, dans une chambre, peuvent se déguiser en un objet quelconque, une ombre dans un coin, et dont la présence est un événement délicat. Elle portait des souliers des plus silencieux et de simples robes virginales, dont l'ourlet lui frôlait les chevilles. Bien que plus âgée que sa sœur, elle avait l'air d'avoir été, comme moi, adoptée par Verena. Attirée et guidée par la gravitation de l'astre de Verena, nous tournions séparément dans les espaces extérieurs de la maison. La seule amie et confidente de Dolly, c'est Catherine Crick, qui vit avec les deux sœurs depuis leur enfance. Catherine Crick avait été engagée par M. Uriah Talbot. Et tout le monde avait été élevé ensemble, elle et les sœurs Talbot, dans la vieille ferme qui, depuis, est devenue la gare de chemin de fer. Elle habitait au fond du jardin, dans une petite maison au toit de zinc, tout argentée parmi les tournesols et des treillages où grimpaient des haricots beurre. Elle affirmait qu'elle était indienne, ce qui faisait cligner de l'œil à bien des gens, car elle était noire comme les anges d'Afrique. Verena, la sœur cadette, tient le rôle de chef de famille. Volontaire, autoritaire, c'est aussi une femme d'affaires dans la petite communauté. Verena était la personne la plus riche de la ville. le drugstore, la mercerie, un poste d'essence, une épicerie et un immeuble occupé par des bureaux, tout cela lui appartenait et n'avait nullement contribué à lui rendre le caractère facile. Cependant, la vie est douce pour Colin, entourée de l'affection de Dolly et de celle de Catherine. Une fois par semaine, le samedi généralement, nous allions à Riverwood. Pour ces excursions, qui duraient toute la journée, Catherine faisait cuire un poulet et une douzaine d'œufs, et Dolly emportait un gâteau au chocolat et des sucreries. Ainsi pourvus et chargés de trois sacs à grains vides, nous prenions la route de l'église, longions le cimetière et traversions le champ des hautes herbes. Juste à l'entrée des bois, il y avait un azédarac à double tronc. Deux arbres en réalité, mais dont les branches étaient si étroitement enlacées qu'on pouvait passer de l'un à l'autre. En fait, ils étaient réunis par une cabane, spacieuse, solide. C'était un modèle de cabane. On eût dit un radeau flottant sur des ondes de feuilles. Y pénétrer était aussi facile que monter un escalier. Une écorce noueuse offrait un appui pour les pieds et les mains pouvaient s'accrocher à des lianes résistantes. Après avoir entreposé nos provisions dans la cabane, nous nous égayions dans le bois, chacun avec notre sac, que nous remplissions d'herbes, de feuilles et d'étranges racines. Personne, pas même Catherine, ne savait de quoi se composait l'élixir, car c'était un secret que Dolly gardait pour elle seule, et nous n'avions jamais la permission de regarder ce qu'elle entassait dans son propre sac. Cette cueillette n'est pas tout à fait improvisée. Elle permet en effet à Dolly de récolter les herbes qui lui permettent de concocter une tisane, dont il faut l'avouer, on ne saura jamais si ses bienfaits sont réels. Cependant, elle permet à Dolly une forme d'indépendance. Elle écrivait des lettres, mais au début, cette correspondance fut pour moi un mystère. Après tout, sa seule amie était Catherine Crick. Elle ne voyait qu'elle et ne sortait jamais, sauf une fois par semaine quand, avec Catherine, elle allait à Riverwood où elle récoltait les ingrédients d'un remède contre l'hydropisie qu'elle fabriquait et mettait en bouteille. Plus tard, je découvris qu'elle avait des clients dans tout l'État, et c'est à eux qu'elle écrivait ses multiples lettres. À cause de ce commerce d'herboriste, tout va changer. Verena, comme elle en a l'habitude deux fois par an, part en voyage d'affaires. À son retour, elle est accompagnée d'un certain docteur Moritz Ritz. Il portait des cravates papillons et des complets voyants. Ses lèvres étaient bleues et il avait de petits yeux fuyants. Dans l'ensemble, il ressemblait à une méchante souris. Au cours d'un déjeuner dominical catastrophique, dont l'invité unique est le docteur Moritz Ritz, Dolly apprend que Serena et le docteur ont un projet commun qui la concerne, elle et sa potion magique. Verena, se tournant vers Dolly, lui dit « Maurice et moi, nous allons à Washington cette semaine. » Pour faire établir un brevet du médicament. Nous donnerons ton nom comme en étant l'inventeur. Maintenant voici, Dolly, il faut que tu nous donnes la formule complète, par écrit. » Le visage de Dolly se décomposa. Appuyée des deux mains à la table, elle se souleva. Lentement, sa figure se recomposa. Elle leva la tête et les yeux clignés regarda le docteur Ritz, puis Verena. « Impossible, » dit-elle calmement. Elle se dirigea vers la porte et mit la main sur la poignée. « Impossible, parce que tu n'as aucun droit, Verena, ni vous non plus, monsieur. » C'est ainsi que Dolly, ulcérée, bouleversée, quitte la maison familiale, suivie par Catherine et par Colin, qui n'imaginent pas vivre sans elle. Cette histoire, qui commençait par la description de relations entre les personnages d'une famille dans une petite communauté du sud des États-Unis au cours des années 20, prend alors la tournure d'un conte mélangé aux ingrédients d'une comédie, dans lequel s'affrontent la volonté de liberté des faibles et le souci d'une société gardienne des règles et de la loi. Les deux femmes et l'adolescent se sont réfugiés dans la cabane au creux du sycomore, où ils ont l'habitude de pique-niquer. Et alors que les uns et les autres affluent autour de l'arbre pour faire entendre raison au trio frondeur ou pour les soutenir, au milieu des tumultes, se nouent des amitiés et naissent des sentiments tendres.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Retrouvons-nous le 10 mars dans 10 minutes chronique Viva Culture sur Westrack Radio.
Nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.